Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc Andiwa. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie, en distance, avec Chloé Peterman. Bonjour.
Bonjour.
Chloé, vous êtes avec nous pour nous parler des murs qui ne servent à rien. La 7e édition, ça va se dérouler à Dieulefit du 22 au 24 septembre. Alors c'est en quelque sorte prendre 3 jours pour penser l'émigration. Et pour cela, vous enrichissez cette proposition de lecture d'extraits, de films documentaires, de discussions, de mini-conférences également et d'expositions. On viendra plus en détail le long de cette émission. Et pour commencer, il y a également aussi 2 expositions. L'une qui propose une cartographie et l'autre des photographies. Alors, que dire donc de ces murs ne servent à rien ?
Alors le titre « Les murs ne servent à rien », il est issu d'un des films qu'on a passé dans la toute première édition de ce festival, l'édition 0 en fait, qui avait eu lieu à Genève. On avait passé un très beau film qui s'appelle « Les messagers » et qui parle de la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et dans une des interviews, il y a un monsieur de la Guardia Civil qui dit, donc c'est un monsieur qui est là pour normalement fermer la frontière et empêcher les intrusions sur le territoire européen. Et c'est lui-même qui dit les murs ne servent à rien pour des hommes qui ont déjà fait 1000 kilomètres. C'est-à-dire c'est une sorte de forme de reconnaissance de l'impuissance à contenir et à tenir fermée une frontière, comme on le sait. Donc, nous, on a gardé ce titre, « Les murs ne servent à rien », parce qu'on le trouve très beau. Et donc, ça fait 7 années que c'est cette phrase qui porte notre festival.
Voilà, les murs, c'est quand même aussi un objet qui est dans l'histoire de l'humanité a toujours existé en quelque sorte. On nous parlait d'une des 7e merveilles du monde, celui de la Grande Muraille de Chine, par exemple.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et effectivement, ce titre, malheureusement, reste largement d'actualité puisque les murs qui servent de frontières et qui servent à séparer les pays et à séparer les hommes entre eux ne font que se développer sur la planète. La Courrier International a sorti un hors-série que je recommande qui s'appelle Atlas des migrations, où il y a une carte tout à fait intéressante sur toutes les dernières constructions soit en cours, soit qui viennent d'être terminées. Et effectivement, dans le monde entier, les murs se développent puisque visiblement, nos dirigeants ont bien du mal à trouver d'autres façons de penser la migration que d'essayer de l'empêcher.
Voilà, une main tendue au bâtiment de travaux publics. Ensuite, vous parliez de cartographie. Effectivement, c'est une des 2 propositions d'exposition.
Oui.
Avec qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette exposition de cartographie ? Elles seront certainement à thématique, géographique.
Oui, tout à fait. Oui, complètement. En fait, on a réussi à faire venir une exposition de cartographies qui ont été réalisées par le collectif Migre-Europe. Donc, c'est un collectif qui est fait de militants et de chercheurs qui travaillent sur notamment la question de la violence aux frontières et de l'empêchement de la migration autour du, surtout le pourtour méditerranéen. Et donc, cette exposition de cartographie, en fait, elle montre différentes cartes qui permettent de comprendre tous les processus, toutes les stratégies, tous les mécanismes qui sont mis en place pour bloquer les personnes autour de la forteresse Europe. Donc, avec différents points de vue, avec différentes échelles, sur des trajets beaucoup plus précis, parfois aussi des cartographies qui ont été réalisées par des chercheurs qui travaillent vraiment directement avec les personnes exilées et qui du coup recueillent leurs paroles. Donc, il y a par exemple exemple une carte qui vraiment décrit ou plutôt, comment je dirais, formalise le récit d'une personne migrante qui a déposé auprès d'une chercheuse tout son parcours et qui nous permet du coup de comprendre tous les endroits où il a été bloqué, où il a dû faire un détour, où il a dû prendre les risques qu'il a pris pour finalement un jour arriver sur le territoire européen.
Passerelle, l'association Passerelle qui organise ces rencontres donc autour des murs ne servent à rien. C'est un mot qui vous convient justement, qui répond exactement à ce que vous proposez dans votre activité associative.
Ben oui, disons que passerelle, c'est le mot qui a été choisi lorsqu'on a fondé cette association. Alors, moi, je regrette que ce ne soit pas un nom très original, mais il n'empêche qu'effectivement, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la passerelle pour passer au-dessus des murs ou pour passer au-dessus d'une frontière ou pour passer au-dessus d'une rivière. C'est aussi, pour moi, c'est plus la notion symbolique. C'est-à-dire aussi comment faire des passerelles entre les cultures, entre des personnes de différentes cultures, puisque quand on est un bénévole de l'accueil ou une personne engagée dans l'accueil depuis plusieurs années, finalement, je crois que le cheminement qu'on fait, c'est de comprendre combien cette démarche d'accueil, elle nous demande un effort aussi à nous en tant qu'accueillants. C'est-à-dire que quand on est dans ce type d'association et quand on est proche des personnes qui arrivent, on se rend compte que c'est un travail aussi à faire sur soi, d'aller vers l'autre, d'essayer de comprendre son schéma de pensée, pourquoi est-ce qu'il pense comme ça, qu'est-ce que l'impact de la route aussi a eu sur sa façon de raisonner. Donc c'est aussi ça, finalement, ça rejoint le titre, Les murs ne servent à rien. Il y a les murs physiques, mais il y a aussi les murs qu'on a dans nos têtes, et ce sont ceux-là souvent qui sont les plus difficiles à grignoter, disons. Et pour moi, c'est un peu comme ça que je vois le travail de l'accueil. C'est, on teste un peu notre, en fait, on teste à l'échelle humaine notre plasticité et notre capacité à entendre l'autre et créer un dialogue avec lui. Moi, avec tout mon passif, toute mon histoire, toute ma culture, lui, avec tout cela aussi, quoi. Et comment est-ce qu'on peut créer un lien et une passerelle entre deux personnes?
En parlant de passerelles, ces murs ne servent à rien. Septième édition, ont-ils aussi des contacts, des liaisons avec d'autres organisations qui ont à peu près les mêmes propositions?
Complètement. Notre festival, il est de plus en plus et il se veut de plus en plus un moment où on se rencontre entre acteurs de l'accueil. Donc seront là des bénévoles, des gens qui ont travaillé ou été bénévoles au refuge de Briançon, des gens du DIWA seront là, nos amis de l'association La Trame a dit que vous devez très bien connaître, nos amis de la Maison Elisa de Vercheny, d'ailleurs ce sont eux qui vont cuisiner le samedi soir pour la fête. On a des amis chercheurs qui vont venir de Grenoble, de Paris. Des amis des squats lyonnais qui accueillent les mineurs déminorisés en attente de la réponse du juge. Donc voilà, on crée vraiment, c'est aussi notre but de créer tout ce maillage, de faire qu'on se parle. L'association de Bourdeau, l'association Femmes à l'abri 26 qui s'occupe particulièrement des femmes isolées migrantes qui sont énormément à la rue ces derniers temps du fait des changements au niveau de l'hébergement d'urgence. Donc c'est vraiment un moment où on essaye de se parler, de faire la fête aussi ensemble, évidemment, le samedi soir, mais surtout pendant le festival, que ce maillage, que ce réseau, il puisse avoir lieu. Et à la fois avec les collectifs de la Drôme, que de toute façon on connaît bien, puisque nous, à Passerelle, on organise depuis 2 ans des journées intercollectives où justement on se forme et on se parle et on se retrouve au niveau de Romois, mais c'est aussi plus largement avec les grandes villes, puisqu'il y a des thématiques qui sont liées et qui sont en même temps très différentes dans l'accueil quand on est en milieu rural ou dans les grandes villes. Donc nos amis oui, de Lyon, de Grenoble, certains de Paris seront là, les habits de Buis les Baronnies, enfin voilà, plein de gens qui sont à différents niveaux et dans différentes organisations, dans différents milieux associatifs, mais tous dans un objectif d'accueillir et de répondre à ce défi qui est français et européen, bien sûr.
Pour illustrer tous ces contenus de ces 3 journées, il y a plusieurs médias proposés, le cinéma, la photographie, littérature, radio, cartographie, ça on en a parlé, et puis des conférences juridiques également. Et il y aura également des conversations avec des artistes, des chercheurs, des journalistes que l'on va présenter justement tout de suite. Alors à commencer donc avec vendredi, il y aura... Une introduction, peut-on définir ce qu'est une introduction? C'est la présentation de ce qu'est cette nouvelle aventure?
Oui, c'est toujours. En tant que programmatrice du festival, je fais toujours une petite introduction des murs qui parle un tout petit peu des contenus de la soirée, mais qui fait surtout le lien. En général, j'essaye toujours de faire un petit point sur la situation actuelle du point de vue de l'accueil, mais vraiment d'un point de vue général. Et l'idée, c'est de montrer que c'est important de continuer à s'informer, et c'est ce auquel sert ce festival. Mais nous, pour le programmer, ce festival, on est établi une veille médiatique, une veille sur les films, une veille sur les livres qui sortent, une veille dans nos liens avec les chercheurs, dans nos liens avec les journalistes. Et cette veille-là, elle nous permet d'être en connexion avec ce qui se passe et d'être en alerte, puisque bon, voilà, j'ai pas besoin de vous dire que la situation, elle est quand même particulièrement compliqué. Donc, l'idée de cette introduction, c'est de faire un bilan un peu. Ben voilà, une année vient de se dérouler. Qu'est-ce que ça a été cette année du point de vue des migrations? Donc, souvent, je pointe les grands événements qui se sont passés et certains sont terribles. Mais en essayant toujours de rester combatif, moi, mon idée de l'idée des murs ne servent à rien, c'est d'informer les personnes d'une façon exigeante, sans faux semblant, et de poser des questions et d'ouvrir le débat, mais de nourrir aussi les militants pour qu'on reste combatif et qu'on reste vigilant.
Ensuite, à l'introduction, à 20h15, il y aura une lecture d'extrait de Bibiche de Raosy Pelerin. Donc, ce sera
Oui.
en quelque sorte quelqu'un d'anonyme, sous les boucles et les perruques. Bibiche a fui son pays, la République démocratique du Congo, pour demander l'asile en France, y renaître et se réinventer. Voilà, donc ça, c'est un peu l'intrigue de ce texte. Qu'est-ce qui sera amené autour de cette idée du texte?
C'est un roman qui est très sensible sur Bibiche. C'est vraiment un roman très sensible sur le parcours qu'est cette demande d'asile, le temps de la procédure, l'écriture du récit pour l'OFPRA, la vie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, un centre avec d'autres femmes en demande d'asile, les rendez-vous chez la psy, les rendez-vous chez l'avocate aussi qui l'accompagne dans sa demande d'asile. Et tout ça à la première personne. C'est Bibiche qui raconte son histoire. Et c'est vraiment un bouquin qui nous a transporté, qui nous a énormément ému et où je pense qu'il y a énormément de justesse. C'est une œuvre fictionnelle et moi, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai compris aux trois quarts du bouquin que c'était une fiction, en fait. C'est-à-dire que je me suis laissée tellement emporter, j'ai vraiment pensé que Raosy Pelerin écrivait son histoire, en fait, alors que pas du tout. Raosy Pelerin ne vient pas du tout de République démocratique du Congo, mais c'est tellement vrai qu'on a été vraiment embarqué par ce bouquin.
Elle s'est quand même très bien documentée pour pouvoir rédiger ce livre.
Exactement, exactement, tout à fait, c'est ça, c'est ça. C'est à la fois très bien documenté et parallèlement à ça, tellement humain dans la façon dont Bibiche raconte ça, oui.
À suivre, film documentaire La vie devant elle de Manon Loiseau. Et donc, cela sera suivi d'une discussion avec cette journaliste et réalisatrice, Manon Loiseau, sur donc ce film. Ce film, donc La vie devant elle, parle d'une jeune Afghane de 14 ans qui se filme avec une petite caméra et raconte en quelque sorte un journal intime. Donc, comment intervient justement Manon Loiseau sur cette idée de cette aventure, de cette histoire de Ella A.
En fait, Manon Loiseau a filmé, c'est elle qui filme en très grande partie ce documentaire. Elle porte un regard sur Ella, qui, elle, a un appareil photo qui est aussi une caméra et qui filme certaines parties au final du documentaire et surtout qui est l'héroïne en fait de ce film. On est vraiment dans un journal intime dont Ella est l'héroïne. C'est une vision de l'exil en famille, puisque Ella est là, entourée de toute sa famille, ses frères, ses sœurs et ses parents, en Grèce pendant leur parcours d'exil vers l'Europe. Et j'ai choisi ce film parce que Ella, en tant que personne concernée, a vraiment co-construit le film avec Manon Loiseau et on le sent aussi dans la relation qu'elles ont l'air d'avoir. Et c'est un film qui est pas encore sorti en salle, donc on a vraiment la chance de l'avoir à Dieulfi et il était sélectionné cette année au Festival international du film sur les droits humains de Genève.
En parlant de photographie, il y a aussi les chants de l'Asphodèle d'Agathe
Oui.
Caïphas et Mathias Benguigui. Donc, ce sont des photographies qui ont été primées, je crois, aux rencontres de photographie d'Arles en 2021.
C'est un projet qui était présenté tout à fait, qui était dans la programmation d'Arles en 2021. C'est là que je l'ai vu et que je l'ai découvert. On est absolument ravis d'avoir réussi à financer cette année la venue de cette exposition. C'est vraiment un point de vue sur l'île de Lesbos tout à fait novateur, tout à fait sensible, où Mathias Benguigui à la photo et Agathe Calfas au texte portent un regard sur cette île qui, depuis l'Antiquité, est un endroit où les personnes passent, où les personnes migrent. Il y a cette histoire très particulière, notamment de la grande catastrophe en 1922, quand la Grèce a eu cette défaite contre les Turcs. Ben, il y a plus d'un million de Grecs orthodoxes qui ont été envoyés depuis la Turquie vers Lesbos, renvoyés, déportés, je ne sais pas comment dire. Et en fait, aujourd'hui, quand en 2015, il y a eu la grande migration de personnes, et notamment de personnes arrivant de Syrie, ben les Grecs qui ont accueilli ces personnes sont des descendants de ces personnes de 1922, de la grande catastrophe. Donc il y a vraiment dans cette exposition, dans ce travail, au-delà d'une exposition de photos, je trouve que ce projet, c'est une exposition d'art contemporain, c'est-à-dire on est plongé. En plus, là, ils travaillent très souvent in situ. Donc là, on leur a trouvé un immeuble vide dans Dieulfi. Donc l'expo va être réalisée in situ sur 4 étages. Ils arrivent 4 jours avant le festival pour monter cette expo. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'il ne faut pas rater ça. Agathe et Mathias seront présents pendant tout le festival pour discuter avec les gens qui seront là. Il y aura des lectures qui seront réalisées dans l'expo et ils vont faire une présentation de leur projet Les Chants de l'Asphodèle dans le courant du festival sur scène. Et c'est à 11h45 le samedi, si vous voulez tout comprendre de comment est-ce qu'ils ont élaboré tout ce projet des Chants de l'Asphodèle.
Ces photographies sont de quelle taille?
C'est vraiment une expo où il y a tout type de format pour ce qui est des photos et tout type aussi de tirage. C'est-à-dire qu'on a à la fois des photos tirage qu'on connaît avec un cadre, on a des photos qui sont tirage très grand et encollées au mur. Enfin, il y a un endroit où il y a du son, toute une salle où il y a du son qui s'ajoute aux images et au graphisme. Enfin voilà, on est plongé quoi dans un univers.
Nous arrivons au samedi avec un point d'étape autour d'un projet, celui de la maison accueillante de Dieulefit. Ça, c'est une proposition de l'association Passerelle aussi.
L'année dernière, on a fait une première présentation de ce qu'est notre projet de maison accueillante de Dieulefit. Et donc là, ben, c'est le point d'étape, c'est-à-dire que on propose aux personnes qui sont déjà au courant et à toutes les autres de nous rejoindre pour qu'on puisse leur dire où en est ce projet. On va vraiment faire un point sur l'avancement au niveau du foncier, l'avancement au niveau financier, l'avancement du contenu de cette maison et de ses usages.
Quel est le soutien au niveau des collectivités, de tous ces projets et de ces propositions même, des murs ne servent à rien?
Alors, les murs ne servent à rien. Le festival en lui-même, il est soutenu financièrement par la mairie de Dieulefit, par la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et par la DRAC Ethnographie ainsi que l'été culturel qui est un des financements de la DRAC. Donc ça, ce sont tous nos subventionneurs. Après, le projet de maison accueillante, à ce jour, il a été inscrit, on vient d'être inscrit en fait au projet PVD, Petite Ville de Demain Dieulefit, puisque Dieulefit fait partie de ce protocole Petite Ville de Demain, qui est un protocole d'État de soutien vers la transition pour les villes de moins de 20 000 habitants. Et donc, ben, ça veut dire que et la ville de Dieulefit et la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux se sont vraiment marqués comme soutenant largement le projet de maison pour accueillir des personnes exilées à Dieulefit. Donc ça, c'est une immense chance pour nous et c'était d'ailleurs quelque chose pour nous d'indispensable qu'un projet comme celui-là, il faut avant tout qu'il soit porté et soutenu par les gens en local et par le territoire. C'est essentiel.
Il y a à 11h une mini-conférence sur le pacte de l'Union européenne sur l'asile et la migration. Et donc, ce sera opéré par Julia Brilland, qui est juriste du droit d'asile. Donc, qu'est-ce qui va être peut-être émis sur cette proposition?
Alors, Julia, pour ceux qui sont déjà venus au mur, ils la connaissent. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille avec elle. C'est une jeune juriste du droit d'asile qui vit à Lyon, qui est très investie dans les milieux d'accueil lyonnais et qui est salariée à la Croix-Rouge, qui s'occupe des maraudes de nuit. Donc, elle connaît bien la situation très difficile du point de vue de la migration et de la vie à la rue sur Lyon. Mais par son métier de juriste, elle nous prépare toujours des mini-conférences. On appelle ça les mini-conférences parce qu'elles durent 30 minutes max. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit accessible à tous, même les nuls du droit peuvent venir. L'idée, c'est que ce soit pédagogique. Et donc là, elle va nous faire un point sur le nouveau pacte de l'Union européenne sur l'asile et la migration. Qui tend vers une externalisation effectivement de la demande d'asile aux frontières de l'UE. L'idée maintenant, c'est qu'on ne laisse même plus rentrer les personnes en Europe pour ne pas puisque nos dirigeants préfèrent qu'ils ne rentrent pas puisqu'ils ne veulent pas qu'ensuite ils ne ressortent pas. Donc, il y a toute une stratégie mise en place par l'Union européenne pour que les gens puissent, dans des conditions de plus en plus dégradées, demander l'asile à l'extérieur de l'Union européenne. Elle nous fera un point sur ça.
Julia Brilland, agissant à Lyon, est-ce qu'il y a aussi, on sait cette problématique de l'extrême droite sur Lyon, est-ce qu'il y a, et même partout, hein, on a vu des exemples il y a quelques années à Briançon avec ces anoraks bleus qui faisaient la police elle-même sur les frontières montagneuses. Donc, est-ce que il y a aussi ce constat et cette discussion autour de cette montée de l'extrême droite en France.
Ah, alors en tout cas, nous, en tant que porteurs d'un projet de maison accueillante, on est bien évidemment très très sensible à tout ça. On regarde vraiment comment les choses se passent. On lit des choses, on parle avec des journalistes, avec des chercheurs sur ces questions, puisque là, à Cayac, à Saint-Brévin, voilà, il y a quand même différentes communes où les choses se sont largement envenimées. Après, on est aussi très prudent et on essaye de rester aussi très calme par rapport à ces situations. On sait bien que souvent, il y a une utilisation en fait politique de l'ouverture ou du déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les mouvements d'extrême droite se focalisent sur un petit événement pour en faire leur bon, voilà, leur
Leur
com,
chou gras.
leur chou gras, on peut dire, mais il n'empêche, oui, on reste vigilant et c'est pour ça que nous, notre stratégie, c'est la totale transparence. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a déjà fait 2 réunions publiques, là, on en fait une troisième dans le cadre des murs, on diffuse partout le 4 pages qui présente notre projet, on fait signer des lettres de soutien, on est à plus de 200 ou 250 lettres de soutien signées par des personnes qui disent oui, moi je suis pour que ce projet de maison accueillante il advienne. Donc c'est notre stratégie, c'est d'être transparent, c'est d'expliquer pourquoi on fait ce projet, qui seront ces personnes, pourquoi il y a besoin d'ouvrir des places d'accueil pour les demandeurs d'asile en France, voilà. Et on est prêt à discuter et à expliquer et à discuter avec tout le monde, même les gens qui ont peur ou même les gens qui sont a priori contre.
Il y a ensuite une présentation de l'exposition par les photographes et écrivains Mathias Benguigui et Agathe Kalfas, donc pour relayer en quelque sorte le signifiant hein, de ces propositions de photos.
Oui.
Et puis à 14h30, il y aura Indésirable, c'est une lecture proposée sur des textes de Michel Augier, enfin divers auteurs, Louis Viter, Mathieu Gabart, Édouard Glissant, Jean-Pierre Siméon, Bernard Mazeaud. Et vous-même, donc, lirez ces textes avec Nadine Despère, des Indésirables.
Oui.
C'est une thématique donnée sur les textes qui seront lus.
Oui, tout à fait. On a construit cette lecture avec Nadine. Nadine, on travaille avec elle sur Les Murs ne servent à rien depuis bien longtemps. Elle est lectrice sur notre événement depuis plusieurs années. On a, lors de nos lectures autour des questions de migration, on a vraiment eu un immense coup de cœur pour le dernier livre de Michel Agier, donc qui est un chercheur très connu sur les questions de migration. Et son dernier livre est un essai sur cette question de l'indésirabilité. Il s'appelle La peur de l'autre, construire les indésirables. C'est à peu près ça le titre. Le titre précis m'échappe, mais en tout cas, c'est sur cette idée que on a toujours tendance dans une société à trouver des gens qu'on considère comme étant ne faisant pas partie en fait du même monde que nous. Les migrants, les personnes migrantes en font partie. Pas seulement les personnes migrantes, hein, je pense à d'autres types de personnes qu'on essaye d'exclure de nos sociétés ou qu'en tout cas qu'on essaye de rendre invisibles. Et ces dernières années, avec les choses qui se passent à Calais et même maintenant dans les rues de Paris, puisque la stratégie qui a été celle de Calais et maintenant elle s'étend aussi dans les villes françaises, c'est très clairement ça. C'est-à-dire, à Calais, c'est tous les 48 heures que les campements sont démontés, que les affaires des gens sont jetées pour repousser toujours plus loin, pour ne plus que ces gens soient visibles, pour ce qu'on appelle empêcher les points de fixation. Bon, voilà, une politique absolument abjecte. Et à Paris, ben, c'est ce qui se passe aussi. Les gens sont réveillés au milieu de la nuit, leurs tentes défaites, déplacées, pour être et être repoussés toujours plus loin du centre de la ville, donc invisibilisés en fait. Donc, cette lecture, elle fait croiser des textes qui sont des essais, Michel Agier, Louis Vuitter, Mathieu Gabart avec son livre sur les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative. Et tout ça est croisé avec des textes plus poétiques qui amènent des respirations, mais qui amènent aussi des images et des échos très, très forts à cette question de l'indésirable.
À suivre à 15h, Le Chant des Vivants de Cécile Allégra. C'est un film qui mêle documentaire et musique. Le Chant des Vivants donc retrace les parcours individuels qui, grâce à la musique, parviennent à s'ancrer dans les mémoires collectives. On va passer brièvement sur ce film parce que le temps est imparti. Ensuite, à
Oui.
16h30, les rencontres avec Morgane Famy, qui est psychiatre donc à l'Hosper Samdara et à la passe permanence donc d'accès aux soins et de santé. Justement, la psychiatrie, concernant les migrants dont certainement le psychisme est choqué ou bouleversé, il y a certainement cet apport nécessaire de la psychiatrie pour des personnes migrantes.
Complètement, ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on a invité Morgane Famy, puisque l'Hosper Samdara est un institut qui est spécialisé santé mentale et précarité, et donc notamment accueille des personnes exilées dans leurs difficultés d'un point de vue de la santé mentale. Donc, on va avoir une conversation sur notamment qu'est-ce que c'est qu'un syndrome post-traumatique, comment venir en aide à ces personnes, comment leur proposer un soin, comment les faire aller vers le soin, puisque ça, c'est pas que pour les personnes exilées, c'est pour nous tous. Prendre soin de sa santé mentale propre, c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Donc voilà, je pense que ce sera une discussion qui sera vraiment passionnante en regard du film Le Chant des Vivants qui est tout à fait dans cette thématique.
À 18h, il y aura une présentation du livre Georgia, une histoire de migration par la photographe Ljubidja Danilovic. Donc, et ce sera une présentation avec l'auteur.
Oui, tout à fait. C'est Yubisha qui va faire une présentation de son livre. C'est un magnifique livre de photos et de textes, donc qui s'appelle Georgia comme le bateau sur lequel un certain Yubisha Danilovitch, en fait, le début de ce projet de livre, c'est tout le début, c'est l'histoire d'un homonyme. Yubisha Danilovitch, le nôtre, celui d'aujourd'hui, s'est rendu compte que en 1906, un certain Yubisha Danilovitch est monté dans un bateau, le Georgia, qui se dirigeait vers les États-Unis, et il venait du Monténégro, c'est-à-dire qu'il a migré par les routes, à pied et par différents moyens de transport jusqu'en Italie pour s'embarquer dans ce bateau, le Georgia. Et du coup, dans ce livre, il y a une sorte de mise en abîme entre la migration d'aujourd'hui que Yubisha a photographiée dans différents lieux sur la route des Balkans, au refuge de Briançon. Il est aussi parti aux États-Unis faire des photos dans la région, dans une des régions dont le passé nous parle. Et il a. En fait, le livre est aussi une forme d'autofiction, puisqu'il a écrit dans ce livre des lettres en se prenant pour le Lyubisha du passé, et comme si cet homme avait écrit des lettres sur son chemin, et il écrit à sa famille en expliquant son chemin migratoire.
Samedi à 19h, toujours, il y aura ce repas africain avec un set musical proposé par Tuff Kong Ifi. Ensuite, dimanche, il y a un film documentaire à 10h qui s'intitule Maître de Swann de Poe.
Dimanche, pour moi, il faut absolument venir le matin pour voir le film Maître sur la question des sans-papiers qui se passe dans un cabinet d'avocates qui accompagnent des sans-papiers dans leur tentative de régularisation. Et après le film, là, c'est vraiment pour moi un grand moment. On fait venir Stéphane Le Courant, il est chercheur au CNRS et anthropologue. Et à partir de sa thèse, il a écrit un livre qui s'appelle Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État. Il a pendant 8 années suivi en entretien des personnes sans papier en France, certaines pour des très longs entretiens pendant très longtemps, d'autres pour quelques entretiens. Et il a établi une étude de ce que l'irrégularité fait aux personnes. C'est absolument passionnant, ça va dans plein de détails, ça amène une complexité, une densité, juste une compréhension et une visibilité justement à ces personnes qui vivent en se cachant puisqu'elles n'ont pas de papier et qu'elles risquent l'expulsion tout le temps. C'est absolument passionnant et on a vraiment énormément de chance que Stéphane Le Courant ait accepté notre invitation. Donc j'aurai une conversation d'une heure avec lui suite au film Maître.
Nous retrouvons Julia Brilland qui proposera une mini-conférence France, la nouvelle loi asile et immigration. C'est un sujet d'actualité
C'est
et qui
ça.
permettra surtout d'éclairer un peu les auditeurs.
Oui.
D'ailleurs, ces mini-conférences, ces propositions, est-ce que vous en gardez trace afin de pouvoir relayer aussi cet honneur de ce festival
Eh
dans
ben
la durée?
complètement, complètement. Stéphane Trouille de Voix Libre de Rome de la Maison de Vercheny, il est notre caméraman et il filme toutes les parties, conférences, lectures qui du coup sont ensuite mises en ligne. Donc vous pouvez même retrouver les contenus de l'année dernière et de l'année d'avant sur le web en allant sur notre site, sur le site de Passerelle, il y a des liens et on peut retrouver par exemple l'entretien avec Daniel Derivoy de l'année dernière qui était passionnant. Donc on a cette chance-là, ouais, on essaye d'archiver et de créer une bibliothèque de contenu comme ça autour de la migration avec nos entretiens.
Une écoute radiophonique, Yara Haya. Ça c'est proposé dans le cadre de Arte Radio et c'est un
Oui.
exil en dansant de Mehdi Haoudig et Hassan Ferhani. C'est aussi une proposition du chanteur algérien Draman El Arachi. Ça consiste en quoi? En 71, il y a cette douleur de l'exil en France et le regret du pays natal.
Rachid Taha, il a repris cette chanson qui, en fait, moi, je ne savais pas que ce tube était une reprise. Et je ne savais pas non plus, quand je dansais, notamment dans les lieux d'accueil, et quand on dansait dans les fêtes sur cette chanson, je ne savais pas que c'était une chanson sur l'exil et je ne savais pas que c'était une chanson qui disait « Ne pars pas là-bas, tu vas être déçu ». Donc, c'est un documentaire radio absolument passionnant de Mehdi Aoudi qu'on connaît bien puisqu'il a été en résidence de journaliste ici à Dulfi et qui fait, par la musique, une sorte de photographie de l'exil et de la relation des Français d'origine maghrébine à cette chanson, c'est juste passionnant, très bien fait et musicalement savoureux. Donc il faut venir écouter ça avec nous.
Film documentaire pour terminer, Black Jesus de Luca Lucchesi. C'est un film documentaire et qui se passe dans une petite ville côtière de Sicile.
Oui, tout à fait. Où les jeunes personnes migrantes ghanéennes qui vivent dans le centre d'accueil vont vouloir participer à la cérémonie annuelle où on décroche le Christ et où on le porte dans la ville. Étant donné que ce Christ est noir, ils se disent, mais attendez, nous aussi on est noirs et on est chrétiens et on veut le porter avec vous. Et du coup, ça crée tout un mouvement au sein de la paroisse, tout un questionnement chez les habitants du village. Et c'est un très beau film.
Au sujet de tout ce que vous proposez en film documentaire, conférence, photographie, est-ce qu'on peut ressentir malgré tout ce marasme que l'on voit monter, on peut-on encore faire confiance à l'humanité?
Moi, c'est mon credo, hein. Moi, je continue à penser, à croire dans les hommes et dans ce que les hommes collectivement sont capables de faire. Donc, je pense que si on reste engagé, si on est toujours dans nos associations, c'est parce qu'on croit en tout cas que les personnes là qui sont autour de nous, les personnes qu'on accompagne avec l'association, les personnes qu'on rencontre quand on est au bénévole de Briançon, quand on est dans un squat lyonnais, ben, on peut leur amener une petite aide et on peut surtout leur faire part de nous, notre accueil, en tout cas.
Le migrant, c'est un sujet médiatique très exploité, hein, même en politique. Est-ce que c'est réellement cette, est-ce que cela reflète la réalité de ce qui est proposé dans ces médias par rapport à ce qui est dans la réalité?
Ça, c'est une... Non, c'est une question qui est très large. Et pour moi, il y a plein de journalistes qui font un très gros travail, justement, et un très bon travail pour faire que ces personnes existent en tant que personnes et qu'elles ne soient pas justement un migrant parmi d'autres. Mais encore faut-il effectivement aller chercher ces contenus pour les trouver et pour passer un peu au-dessus de la simplification sur ces questions-là. C'est justement ce qu'on essaye de faire pendant ces 3 jours.
L'émission touche à sa fin. Chloé Peterman, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné un peu de votre temps pour ces Murs ne servent à rien qui se déroulent à Dieulefit du 22 au 24 septembre. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Un grand merci. Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تعيا وتولي شحال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي
وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش داوي لا بطيت علمو كتبلي ما يدومو الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي
نعطيك وصايتي ديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك أسراني هكذا راد وقدر في الجبين سبحان العالي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلين